Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver sur nos ondes locales de proximité. Bonjour Michel.
Bonjour Gilliane, bonjour à tous. Nous sommes en novembre. Bientôt, ce sera la Sainte Catherine. Et un proverbe dit « À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». Des particuliers vont ajouter des arbres ou arbustes dans leur propriété. Planter des arbres, c'est nécessaire. Aujourd'hui, comme cela l'était autrefois, et notre chronique s'intéresse à une période où les écoliers participaient au reboisement du département de l'Ain.
Ailleurs, en France, la situation était beaucoup plus dramatique. Et nous allons remonter le temps, plus d'un siècle et demi, jusqu'à la loi du 28 juillet 1860 qui institue le reboisement des montagnes pour lutter contre les ravinements et l'érosion des pentes montagneuses. Des mesures sont prises et bientôt, des sociétés scolaires forestières vont être créées pour entretenir des pépinières et fournir des plants d'arbres aux particuliers.
Une manière de sensibiliser les plus jeunes à la cause environnementale, une expression qui n'existait pas encore. Nous en parlons après avoir écouté un extrait de la Symphonie pastorale de Beethoven, dirigée par Daniele Gatti.
Nous évoquons donc le reboisement des montagnes et, ensuite, la création des sociétés scolaires forestières. Autrefois, les territoires étaient plus largement occupés et, comme le bois était la principale source d'énergie, des montagnes ont vu leur couvert forestier diminuer à tel point que des villages en contrebas étaient exposés au ravinement.
Il fallait prendre des mesures et le code forestier de 1827 en préconise quelques-unes, mais elles sont insuffisantes. Le Second Empire, période de stabilité, s'en préoccupe et une loi est votée le 28 juillet 1860 pour promouvoir le reboisement des montagnes. C'est par l'application de cette loi que le Mont Aigoual, dans les départements du Gard et de la Lozère, ou le Mont Faron, dans le Var, ont retrouvé leurs forêts à la suite d'une action au long cours. Ce sont des exemples parmi d'autres.
À la même période de la seconde moitié du XIXe siècle, le département de l'Ain ne connaît pas une situation aussi grave. Mais le Conseil général prend en compte la nouvelle loi et vote un crédit annuel pour le reboisement à partir de 1861. En décembre 1861, l'administration forestière loue un terrain dans le quartier du Mail à Bourg-en-Bresse pour y entreprendre, je cite, des semis d'arbres verts et autres, destinés à repeupler les sommets dénudés de nos montagnes du Revermont. En effet, on peut remarquer sur les premières cartes postales que les villages de ce Revermont sont peu boisés et que la vigne est encore très présente.
Le reboisement devient une nécessité et les concours agricoles du département l'encouragent en attribuant des prix spécifiques. Nous pouvons ajouter que le premier directeur général des eaux et forêts, en 1860, et Henri Vicaire, natif d'Ambérieu-en-Bugey, en 1802. Il s'est formé à l'école forestière de Nancy. Ses compétences le conduisent à devenir un haut fonctionnaire du Second Empire jusqu'à son décès en 1865.
Nous avons évoqué le contexte général où la société a pris conscience de la nécessité de promouvoir le reboisement. Le relais est transmis aux instituteurs, dont certains suivaient une formation pour obtenir un brevet agricole. Souvent, ceux-ci cultivent un potager et initient leurs élèves au jardinage, au greffage des arbres ou au semis forestier.
La société d'horticulture de Bourg et la société d'émulation et d'agriculture de Lain leur accordent des primes pour pouvoir promouvoir ces pratiques. Dans l'arrondissement de Bourg, la première récompense est attribuée à Denis Giraud, l'instituteur emblématique de Saint-Denis-des-Bourgs.
Malheureusement, la guerre de 1870 survient et brise l'élan de beaucoup d'initiatives. Il faudra près de 10 ans pour relancer le cours des choses. Les primes aux instituteurs ne reprennent qu'en 1879 et le lauréat de 1885 est M. Lacroix à Cuisia. Bien vu, puisque son école et son jardin deviendront, à l'initiative de bénévoles, le musée du Revermont.
Nous sommes alors sous la Troisième République. En avril 1882, la loi de restauration et de conservation des terrains de montagne relance fortement les campagnes de reboisement. La France connaît un essor économique, les loisirs se développent, des sociétés savantes se créent. Dans ce contexte, le Touring Club de France et la Société des Amis des Arbres souhaitent encourager les reboisements et ils pensent que les écoles pourraient être des relais efficaces.
Pour que les jeunes soient sensibilisés, ils encouragent la création des sociétés scolaires forestières en divers lieux. Le mouvement s'implante dans l'Ain à Dortan, en 1899, sous le patronage de l'inspecteur primaire et d'un inspecteur des eaux et forêts. Au même moment, la loi de juillet 1901 facilite la création des associations. Cela bénéficie aux sociétés scolaires forestières qui se créent à Haute-Cour, à Tignat, Tréfort ou Coligny. Le mot « société » a alors le sens d'association.
Le mouvement est lancé. Des écoliers apprennent à effectuer des semis et à entretenir des pépinières. Les plants sont vendus au voisinage. Pour mieux œuvrer en faveur des arbres, ces sociétés ou associations se regroupent dans une fédération départementale en 1908. Celle-ci est vraiment active car elle compte 32 sociétés en 1911 grâce au dynamisme de son président André Janichon qui publie un opuscule « Reboisement et amélioration pastorale dans l'Ain ».
La fédération s'intéresse aussi à un autre thème naturaliste, la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Elle organise surtout un grand rendez-vous annuel, la fête de l'arbre, où tous les amis des arbres se retrouvent avec des écoliers. La première édition, en 1906, est envisagée à Attignat, mais le Touring Club préfère la déplacer à Autonne, en Haut-Bugey, un lieu montagnard plus symbolique. La seconde, en 1907, se déroule à Châles-la-Montagne, village qui domine la vallée de l'Ain. Ensuite, la fédération choisit le lieu.
Le mouvement scolaire est vraiment lancé et la fédération regroupe 47 sociétés en 1914. Elle possède une pépinière de 22 hectares sur la commune de Châtillon-en-Michaille. En dehors de cette organisation structurée, d'autres instituteurs continuent à éveiller leurs élèves aux travaux de la terre. La guerre survient en août 1914 et l'élan est brisé une nouvelle fois. Durant la guerre, les sociétés scolaires tentent de se maintenir. En 1918, elles ne sont plus que 8 à être actives. La pépinière fédérale a néanmoins produit 25 000 résineux.
Après-guerre, des sociétés se recréent et elles sont déjà 41 en 1923. Elles ont repiqué 185 000 résineux, 2 000 peupliers et 1 000 platanes. Elles diversifient leur activité en produisant aussi des arbres fruitiers par greffage sur des sauvageons ou porte-greffes. C'est un peu la spécialité des sociétés de Cerdon et de Lucinge, hameau de Tréfort.
La fédération est recréée en 1921. Son siège est à Nantua et ses propagandistes sont messieurs Chanal, inspecteur primaire et président, et Janichon, instituteur et secrétaire. La fédération, qui compte 45 sociétés, est elle-même rattachée à la Fédération des œuvres laïques de l'Ain. Comment fonctionnent ces sociétés ?
Un rapport conservé aux archives départementales de l'Ain nous l'indique. Animées par les instituteurs, les sociétés sont des œuvres scolaires et post-scolaires. Leur rôle essentiel est l'entretien d'une pépinière où l'on pratique le repiquage des résineux et des feuillus, le greffage, la taille et le traitement des arbres fruitiers. Deux sociétés, celle de Saint-Just et de Villereversure, ont aussi une section florale. Elles participent à l'ornementation de l'école, des jardins et du village.
Ces sociétés s'efforcent de faire aimer les arbres et la nature en général, dont la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. Elles alimentent aussi les trois pépinières fédérales de Châtillon en Michaille pour les résineux, Tréfort-Lucinge pour les arbres fruitiers et Embrenais pour les feuillus. Au total, la production annuelle est de 150 à 200 000 plançons qui sont fournis aux sociétaires, aux particuliers ou aux communes à des prix inférieurs à ceux du commerce.
Le dynamisme de la fédération lui permet de participer à des reboisements et d'acquérir des biens, des terrains et biens immobiliers, dont le Préjanté, près de Châtillon-Michaille, une structure qui accueillait des colonies de vacances. Certains de nos auditeurs les ont peut-être fréquentées.
Toutes les actions de la Fédération participent à l'amélioration de la production forestière et, indirectement par les arbres fruitiers et les noyers, à une meilleure alimentation des habitants. Des fruits plus sains se conservent plus longtemps durant l'hiver.
Chaque année, un grand rassemblement est organisé pour la fête de l'arbre. Le village désigné accueille les délégations venant de l'ensemble du département pour des réjouissances avec défilé des sociétés munies de leurs drapeaux, suivies par les discours des personnalités. Chacun peut se féliciter de la grandeur de cette œuvre d'éducation populaire, effectuée en relation étroite avec l'administration des eaux et forêts et des services agricoles.
L'avenir pourrait être envisagé avec confiance si des bruits de bottes ne se faisaient pas entendre dans les pays voisins. L'Europe, puis le monde, plonge dans une nouvelle guerre destructrice par l'occupation de la France.
Le pays s'en relève difficilement. La population souffre de restrictions pendant plusieurs années et la Fédération des sociétés scolaires forestières ne reprend ses activités qu'en 1949. Le contexte a changé et elle ne compte que 35 adhésions en 1955.
Ses actions se sont réorientées vers l'arboriculture fruitière, la plantation de haies ou d'arbustes d'ornement. Elle propose des visites d'exploitation moderne, mais le mouvement s'étiole et les pépinières cessent leur activité.
Il est vrai que le pays est entré dans une période favorable, appelée les Trente Glorieuses. L'agriculture devient plus productiviste et les fermes qui ne peuvent se mécaniser disparaissent. Le bois devient une source d'énergie moins nécessaire et la production forestière répond à d'autres besoins.
L'époque où chaque village avait son école communale en intégralité est révolue. Les gens sont allés logiquement vers plus de confort. Ils vivent différemment, mais le contact avec la nature et la forêt reste nécessaire. Elles sont source d'apaisement et de sérénité.
Georges Brassens va d'ailleurs nous le chanter en conclusion de cette chronique. Nous terminons par cette belle complainte, auprès de mon arbre, en remerciant nos auditeurs pour leur fidélité, Jimmy à la technique, et nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurai plus de joie. J'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe, le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant. D'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là. Qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.